Bonjour à tous et à toutes. Y a-t-il un bon bio et un mauvais bio ? Compliqué de commencer ainsi sans penser aux inconnus, le bon chasseur et le mauvais chasseur. Mais je vais tâcher de m'extirper la galinette cendrée de la tête, car le sujet est sérieux et complexe. Nous sommes nombreux à nous poser la question en faisant nos courses. Ce produit bio est-il vraiment écolo ? Notamment quand il est emballé dans du plastique, beaucoup de plastique, ou quand il vient de très loin et affiche un bilan carbone désastreux. Le bio garantit une utilisation restreinte de pesticides, mais rien dans son cahier des charges n'oblige à prendre en compte le nombre de kilomètres parcourus, par exemple. Alors faut-il alourdir les critères d'obtention du précieux label AB ? Mais quelles seraient les conséquences sur les prix ? Le marché du bio, c'est loin d'être un détail, affiche une progression spectaculaire. Nous attendons vos messages sur l'application France Inter et sur notre site internet à la page du débat de midi. Le bio doit-il être une religion ? C'est la question qu'on se met sous la dent jusqu'à 13h.
Le débat du midi. Dorothée Barba sur France Inter.
Avec quatre invités en direct dans ce studio, un observateur aguerri de l'agriculture biologique. Bonjour Frédéric Danhaie.
Bonjour Dorothée Barba.
Chroniqueur dans l'émission de Denis Chessoux, CO2 mon amour, ingénieur écologue de formation. Vous êtes l'auteur d'un livre chez Albin Michel intitulé « Acheter bio, à qui faire confiance ?». Le directeur de l'agence bio est là également. Bonjour Florent Gull.
Bonjour.
Comment est-ce qu'on présente l'agence bio d'abord ? C'est une agence qui dépend du gouvernement et qui est chargée de promouvoir le bio en France ?
Alors on est chargé de la promotion et du développement de l'agriculture biologique et on dépend effectivement du gouvernement mais également un copilotage avec les professionnels du secteur bio, agricole et alimentaire.
Donc vous êtes le porte-parole du bio français en quelque sorte.
On peut faire ça en tout cas.
Un représentant des magasins Carrefour est autour de la table. Bonjour Benoît Souris.
Bonjour à vous.
Bienvenue, directeur du marché bio chez Carrefour. La grande distribution est un acteur très important de ce débat. La moitié des produits bio aujourd'hui en France est vendue en grande surface, c'est bien ça ?
Absolument, ce sont les derniers chiffres publié par l'agence bio.
Le meilleur du bio, c'est le titre d'un hors-série proposé par 60 millions de consommateurs. Bonjour Christelle Pangrazi.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes la rédactrice en chef adjointe de ce hors-série. J'aimerais commencer par vous soumettre l'intitulé de l'émission « Le bio doit-il être une religion ?» Est-ce que ça vous semble saugrenu d'employer ce mot « religion » ?
Non, c'est pas saugrenu. En fait, on peut le penser parce qu'aujourd'hui, effectivement, avec ce précieux label, les consommateurs se dirigent vers des produits qui ont ce label en pensant avoir tout, en fait. Un produit qui est à la fois vertueux pour leur santé, pour l'environnement, d'un point de vue éthique, d'un point de vue du bien-être animal. Et on s'est aperçu en faisant notre étude que, évidemment, les produits ne correspondaient pas à ça. Alors, c'est effectivement pas ce qu'impose aujourd'hui la réglementation du bio, sauf qu'on a vu des failles qui nous semblaient très importantes. Et aujourd'hui, nous estimons à 60 qu'il faudrait sans doute revoir la réglementation.
60 millions de consommateurs.
Oui.
Qu'il faudrait alourdir les règles.
Alourdir les règles et sans doute revoir la réglementation européenne.
Florent Gull, est-ce une religion, le bio ?
Je pense qu'on peut dire qu'en tout cas historiquement ça l'a sans doute été. Faut quand même se rappeler que l'agriculture biologique a commencé à être établie, mise en forme, précisée il y a pratiquement 100 ans maintenant en France, qu'on est à l'origine de tout cela et qu'effectivement à l'époque sur un nombre assez réduit d'acteurs on pouvait peut-être associer ça. Il y a du vocabulaire aussi quand on passe en bio en tant qu'agriculteur, on se convertit au bio, donc c'est pas tout à fait anodin.
Le champ sémantique de la foi effectivement.
C'est ça. Mais je crois qu'aujourd'hui on est quand même dans quelque chose de très pragmatique, de très vérifiable, de très contrôlable. Par contre, effectivement, il faut faire de l'information. J'ai déjà entendu plusieurs grosses erreurs depuis le début de cette émission. Ça va vite.
Ah bah alors,
on parlait tout à l'heure du local, par exemple. Oui. Le cahier des charges impose effectivement, par exemple, la nourriture des animaux élevés en bio avec une part importante de nourriture locale, ce qui est le seul cahier des charges qui a cette mise en précision-là, par exemple.
On peut manger des bananes bio qui viennent de très loin.
Je parlais des animaux à l'instant, donc on va rester sur la nourriture des animaux. Mais c'est important parce que souvent, cette question de bilan carbone, on ne l'étend pas à toute la chaîne de production. Et la façon dont sont nourris les animaux, on le sait, on parle parfois de déforestation pour aller produire du soja au Brésil, par exemple. Là, c'est un élément clé qui figure dans ce cahier des charges et qui est effectivement contrôlé systématiquement.
Bernard, un auditeur qui nous a écrit un courriel, va dans votre sens puisqu'il dit « Oui, c'est une religion ou à minima une idéologie, car il faut croire que ce mode de production est vraiment écologique, à part certainement pour les productions animales. Pour les productions végétales, dit-il, l'agriculteur AB européen peut utiliser des pesticides. » On va bien sûr entrer dans le détail là-dessus. Frédéric Danhaie, sur le mot religion ?
Alors effectivement, on se convertit au bio sur des terres consacrées au bio. Hein. Donc l'aspect judéo-chrétien pénitent existe toujours dans le langage. Non, est-ce que c'est une religion ? Non, c'est pas comme ça que le bio se défend et se promeut. Par contre, c'est perçu comme ça par beaucoup de clients du bio qui plaquent sur le bio tous leurs fantasmes, tout ce qu'ils pensent ne pas obtenir dans le système alimentaire dont l'opacité fait peur. On plaque sur le bio, c'est une espèce de refuge, de bâton totem autour duquel on tourne pour trouver une réponse à ces interrogations sur la planète, sur la santé, sur le goût, etc. etc. Et le bio ne peut pas porter tout ça. Le bio, c'est un cahier des charges. Dans le cahier des charges, il n'y a pas tout ça. Et dès lors que les gens, les consommateurs et les journalistes, qui eux aussi ont placé le bio sur un pinacle, par opposition au conventionnel qui était réputé être un ennemi du peuple, dès lors que l'on se rend compte que le bio ne peut pas tout faire, eh bien on estime qu'il est entré dans des dérives. Or, il n'y a de dérive que par rapport aux fantasmes que l'on porte sur le bio. Par rapport au cahier des charges, il n'y en a pas.
Benoît Souris, des magasins Carrefour.
Pour ma part, j'ai le sentiment que le bio, c'est d'abord une problématique de conviction et ensuite c'est une démarche. C'est-à-dire que si on juge le bio en 2019, il faut le regarder sur effectivement de là où il vient, là où le bio ou la bio doit aller demain. Mmh. Et une démarche de conviction, parce qu'effectivement, il faut une poignée d'interlocuteurs, consommateurs ou agriculteurs convaincus pour être capable de développer cette agriculture biologique.
Allez, on entre dans le détail dans un instant avec les réactions des auditeurs. Émission préparée par Anna Massardier, réalisée par Lola Costantini, Guillaume Roux, Élise Christophe et Florent Bujon à la technique. Citer leur nom sur de la musique, ça me donne l'impression que toute l'équipe est sur la piste de danse. La fièvre du vendredi midi, programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert. On est bien l'été sur France Inter. Il est midi 13.
Je n'ai pas prévu de rater plus. Ça, je peux bien m'en empêcher. HIP m'a chopé. Je me suis mis à rapper. HIP m'a chopé. Je me suis remis à choper. Thank you.
s'assemble.
Tout s'assemble. C'était Jojoa et lieutenant Nicholson sur France Inter. Le débat de midi des jeunes 100% bio.
Un peu de gaieté à présent avec les magasins bio, un véritable phénomène qui a gagné la capitale depuis quelques années.
Alors moi, je ne comprends pas pourquoi les Français...
Enfin, surtout les provinciaux.
Ouais, les provinciaux s'obstinent à faire leurs courses dans les grandes surfaces, alors qu'ici, on trouve de tout. C'est frais, c'est bio pour la santé, c'est diversifié.
Bien sûr, regardez, hygiène bucco-dentaire, savon végétal... Tiens, mais regardez ce déodorant. Ah, voilà. Sans parabènes, sans aluminium, sans alcool, 100 euros.
On reste encore un peu.
Ah oui, pour une cachette de mandarine, on prend le chèque, hein.
Ou les hypothèques de maison.
Alors moi, les principes, j'en avais plein avant que ma fille arrive. Je disais, ben déjà, ma fille, elle mangera bio, ça me paraît essentiel. Ouais, je parlais comme une connasse. Bah parce que j'ai pas du tout envie qu'elle se gaffe de gluten, de graisse hydrogénée, d'OGM, no way, quoi. Ouais.
Vous avez déjà fait vos courses dans un supermarché bio? On s'attend à des gens éclatants, pétant le feu. Et ils ressemblent aux tomates qu'ils achètent. Mou, fripé, dégarni.
Un concentré de mauvaise foi signé Palmachot, Florence Foresti et Stéphane Guillon. Ça a fait sourire tout le monde autour de la table. Pourtant, Dieu sait si vous n'êtes pas d'accord sur ce sujet. Parlons d'abord des tomates bio qui poussent sous serre chauffée. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. Un compromis a été trouvé. Le compromis peut se résumer par pas de tomates bio à Noël. Il est désormais interdit en France de vendre des produits bio élevés sous serre chauffée en hiver, mais on peut continuer à chauffer les serres. Florent Gull, directeur de l'agence bio, est-ce que cette solution vous semble convenable ?
Bon, d'abord, les fêtes de Noël ne durent pas aussi longtemps. Enfin, dans ma famille, on s'arrête un peu plus tôt. Là, on va aller jusqu'au 30 avril, hein, du 21 décembre au 30 avril. Moi, ce que je trouve intéressant et même remarquable dans ce compromis, bon, d'abord, c'est qu'il existe en soi, qu'on a trouvé effectivement une capacité à réguler les choses et dire que c'est une première étape, notamment au niveau européen, puisqu'on est le premier pays à prendre ces initiatives-là. Et puis, d'autre part, ce que je trouve intéressant, c'est que ça associe fortement le consommateur. C'est-à-dire que ça n'a pas forcément été au départ voulu pour ça. C'était surtout voulu parce que c'était le meilleur moyen de contrôle qu'on avait. Il faut pouvoir, quand on édicte une règle, dès le départ réfléchir à est-ce qu'on va pouvoir la contrôler. Donc les organismes de contrôle nous ont dit ça, c'est bien faire. On peut vérifier que la production est destinée à être vendue dans une période donnée ou pas. Et du coup, je trouve que ça permet aux distributeurs et aux consommateurs d'être en responsabilité, de dire pendant cette période-là, on ne consomme pas de tomates bio, qu'elles viennent de France ou d'étrangers. Et d'ailleurs, on pourrait très bien se dire, on ne consomme pas de tomates tout court.
Christelle Pangrazi, de 60 millions de consommateurs, on peut donc continuer à chauffer les serres et garder le label agriculture biologique.
Oui, et en fait, c'est pas la consommation, c'est la production qui est en cause. Et en fait, on impose aujourd'hui avec... Alors, c'est mieux que rien.
Non, c'est la distribution, hein, qu'on soit bien clair. Le compromis, c'est de dire on ne pourra pas commercialiser de tomates bio issues de production française entre le 21 décembre et le 30
avril. Mais ce qui choquait certains, c'était le fait même chauffer ces serres, Christelle Pangrazi.
Alors, effectivement, vous disiez de production française. En revanche, on pourra continuer à commercialiser des tomates bio produites sous serre, produites en Hollande, par exemple. Donc en fait on impose aux producteurs français une réglementation qui est très stricte et qu'on n'impose pas aux producteurs européens.
Qui vous dérange dans l'idée même de chauffer une serre, Frédéric Danhay?
Moi là-dessus j'ai une position ambiguë. Que des Hollandais, des Suédois fassent du bio sous serre, à la limite ça me choque pas, parce que s'ils n'avaient pas de serre, ils pourraient pas avoir beaucoup de fruits ou de légumes. Ensuite, qu'elle soit chauffée au fioul, c'est plus embêtant, parce que si on prétend que le bio est une vision écologique du monde, chauffée au fioul, ça fait un bilan carbone énorme. Après, je suis pas... En fait, j'ai pas de religion, si j'ose dire, là-dessus, sur la question des serres. Les serres en soi me gênent. Pour moi, tant que je tire le fil jusqu'au bout, tant que là, il y a un rapport avec le sol, tant que la tomate pousse dans le sol, ça me dérange pas. S'il y avait pas ça, ça m'embêterait.
Christelle Pangrazi, vous pensez, vous, qu'il faudrait retirer le label bio à ces tomates qui poussent sous serre chauffée?
Non, j'irai pas jusque-là, mais en fait, concernant le fioul, en fait, d'ici 2025, me semble-t-il, il est prévu que... qu'en fait l'énergie soit l'énergie renouvelable.
Non, donc, c'est même tout de suite, pardon.
C'est tout de suite pour les nouvelles serres. C'est 2025 pour les serres en conversion.
Voilà, pour celles qui sont déjà installées aujourd'hui, sachant qu'il y en a très peu. Donc la décision, c'est plutôt tout de suite en énergie renouvelable, effectivement.
Benoît Souris du groupe Carrefour, les partisans du chauffage de serres mettent en avant la demande qui est toujours plus forte de la part des consommateurs de bio et la crainte de distorsion de concurrence. Autrement dit, si on interdit le chauffage des serres, il faudra importer encore plus de fruits et légumes bio venus de l'étranger.
Oui, tout ça n'empêche pas de prendre, d'avoir des convictions et de les afficher. Pour ce qui concerne Carrefour, on a dit il y a très longtemps, il y a plus de 2 ans, qu'on était totalement opposé à ce système-là. Dès l'instant que le débat a commencé, dès le mois de septembre de l'année dernière, on a co-signé et on était le premier distributeur à le faire, le fait qu'on était totalement opposé à ce sujet-là. Donc là encore, je crois qu'en tout cas pour tout ce qui concerne les produits de la marque Carrefour Bio, donc c'est pour nous un élément essentiel, c'est qu'il faut continuer à afficher des choix clairs. Et effectivement, le compromis qui a été trouvé, bah c'est une étape, mais effectivement, on ne peut que souhaiter que cette étape-là soit désormais au-delà de nos frontières.
Et c'est-à-dire que selon vous, il y a un bon bio et un mauvais bio ?
Non, je n'aime pas du tout cette expression. Je pense que l'essentiel du bio, d'abord, c'est qu'il repose sur des cahiers des charges qui désormais sont européens. Il faut regarder là encore avec un tout petit peu d'histoire et regarder le futur. Il y a quelques années, on pouvait distribuer et commercialiser des produits bio qui n'avaient que 75% d'ingrédients bio. Aujourd'hui, c'est 95%. Qu'on aille demain vers des volets sociaux, environnementaux, c'est absolument indispensable. De toute façon, c'est la demande de nos consommateurs. Il y a déjà un certain nombre de cahiers des charges privés qui nous incitent, qui nous invitent à le faire, et des consommateurs qui sont de plus en plus attentifs. Là encore, construisons cette évolution du cahier des charges et effectivement, cherchons à le faire dans une forme de consensus qui ne soit pas un consensus mou, parce que je crois qu'on a vraiment un rôle à jouer. Et nous, comme distributeurs, on est en contact avec les consommateurs tous les jours.
Ça pose la question de la conviction du consommateur, Florent Gull. Est-ce que vous pensez que le consommateur de produits bio s'imagine que le cahier des charges est plus lourd, que les exigences du label AB sont plus fortes?
Alors, on entendait beaucoup ce genre de choses-là, donc on a voulu vérifier, évidemment. Mmh. On a l'avantage à l'Agence Bio de mener régulièrement des enquêtes auprès des consommateurs. On en a fait une en février dernier où c'est très intéressant parce qu'on a demandé par exemple aux consommateurs s'ils étaient au courant qu'il pouvait y avoir des résidus de pesticides dans un produit bio, issu notamment de l'environnement, issu de ce qu'a montré par exemple le dossier de 60 millions de consommateurs. C'est très étonnant, la réponse est massivement oui, et elle est encore plus forte chez les gens qui consomment régulièrement des produits bio. Donc ça semble montrer qu'on n'est pas du tout dans ce fantasme dont on entend parlé tout à l'heure, c'est très concret, les gens savent pourquoi ils consomment des produits bio et quelle est la limite finalement aussi de l'apport. Ils nous disent c'est mieux, mais ils ne sont pas forcément dans un modèle idéal. Et je trouve que c'est très intéressant de voir ça, en particulier pour les jeunes générations qui arrivent, comme on le disait à l'instant, avec beaucoup de conviction vers la consommation de produits bio, mais en même temps avec beaucoup de raisons gardées et en disant on préfère ces produits-là, mais on ne leur attribue pas des valeurs qu'ils n'ont pas.
C'est ce que nous écrit notamment Didier sur Twitter. Oui, les pesticides sont autorisés en agriculture biologique, et encore heureux pour les agriculteurs, dit-il, Christelle Pangrazi.
Alors oui, c'est nécessaire, sauf qu'il y a quand même certains pesticides qui peuvent poser problème, hein, tant d'un point de vue environnemental que d'un point de vue sanitaire. Quand vous parliez tout à l'heure de l'étude où les gens étaient au courant, vous l'avez menée sur combien de personnes? Quelle était la méthodologie, en fait?
Alors parlons méthodologie, vous avez raison, c'est très important, parce que on y reviendra sur les résultats de tests qui ont pu être faits par 60 millions de consommateurs, par exemple. Donc la méthodologie d'enquête que nous on a fait, elle est sur 2000 personnes représentatives de la population française. On l'a menée avec un organisme de sondage sérieux. Justement, vous parlez de méthodologie, et c'est vrai, quand on dit est-ce que les gens sont courants qu'il y a des traces de pesticides, quand dans un dossier comme 60 millions de consommateurs, leur série qui a plein de choses intéressantes, mais on dit on avait été mesuré 130 produits. Mmh. Dans le même temps, l'EFSA sort une étude tous les ans. L'EFSA, c'est l'Agence européenne de sécurité sanitaire. Ils viennent de sortir la version 2019, au mois de juin également. Eux, ils sont sur une mesure de 90 000 produits à peu près, dont 6 000 en bio, et on n'est pas du tout sur ces résultats-là. C'est-à-dire qu'on a la présence de pesticides sur une petite dizaine de pourcents de produits.
Donc ce que vous dites, c'est que 60 millions ne testent pas assez de produits pour que ce soit pertinent.
En tout cas, c'est compliqué de tirer des conclusions sur 130 produits dont on ne sait pas comment ils ont été analysés, comment ils ont été tirés au sort, puisque finalement, encore une fois, si on prend la méthode scientifique, on n'est pas du tout sur ces chiffres-là, donc il y a un décalage qui est...
Alors, défendez votre protocole, Christelle Pangrazi.
Je vais défendre notre protocole. En fait, 60 millions de consommateurs, nous dépendons de l'INC, hein, qui est l'Institut National de la Consommation, qui est un établissement... public, en fait.
Mais c'est une étude de l'INC ou de 60 millions?
Alors, c'est une étude que nous avons réalisée avec les ingénieurs de l'INC. C'est des études qui ont été menées en laboratoire.
Comment avez-vous choisi les produits?
Alors, nous avons choisi les produits nous avons choisi les produits, par exemple, on a testé les pommes, les huiles d'olive, les laits.
Les pâtes à tartiner, qui prennent beaucoup pour leur grade
Les pâtes à tartiner. Alors, effectivement, nous avons choisi parmi les produits les plus consommés du marché, ce qu'on a vu. Voilà, donc il y a des études qui ont été menées en laboratoire, donc on peut pas
La question c'est pourquoi les résultats.
Donc la méthodologie elle est extrêmement rigoureuse.
Bon alors entrons dans le détail, Christelle Pancrazy. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans cette étude, autrement dit un produit en particulier que vous pensiez peut-être irréprochable alors que pas du tout.
Alors oui, par exemple, je vais prendre l'exemple des laits et des œufs bio. C'est là où on a eu vraiment des surprises. Hein. Alors, on reste dans des résidus de pesticides, mais on s'est aperçu que les résidus, par exemple, de PCB de dioxine, et on s'est aperçu que les résidus de PCB de dioxine dans les laits et dans les œufs.
Il faut préciser de quoi il s'agit, le PCB.
Alors, ce sont des molécules PCB dioxine. Ce sont des molécules qui sont issues en fait des combustions d'usines. En fait, c'est des molécules qui sont issues de pollution polluante.
C'est un isolant qui était interdit dans les années 70.
Exactement.
Et qu'on retrouve partout dans l'environnement.
Le lait bio contient plus de PCB que le lait conventionnel, c'est ce que j'ai lu dans votre
Ce sont des molécules qui sont cancérogènes et qui ont la propriété de s'accumuler à la fois dans les sels et dans l'organisme.
Est-ce que vous en concluez qu'il faut plutôt boire du lait conventionnel que du lait bio, Christelle Pancrazy?
J'explique juste la démarche, la méthode. Enfin, on s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'on en retrouve plus en fait dans ces laits, dans ces œufs? En fait, il se trouve qu'en bio, les animaux sortent, ce qui est plutôt extrêmement vertueux, c'est ce que nous souhaitons en termes de bien-être animal. Sauf que, en fait, les sols, cela signifie, ça a montré deux choses dans la réglementation bio, et j'allais dire deux failles. Ça montre que les sols ne sont pas testés avant que l'agriculteur s'y installe en bio, parce que même avec un délai de conversion, on sait très bien que ces molécules sont persistantes sur de longues années, et ça montre aussi qu'il n'y a pas aujourd'hui de distance minimale entre un champ bio et une usine polluante.
Donc pour que ce soit bien clair, ça veut dire que les vaches sont sorties dans des champs qui sont contaminés aux PCB.
Qui peuvent contenir des PCB et des dioxines.
Et on retrouve donc de ces PCB et dioxines dans le lait. Je repose ma question, est-ce que vous conseillez de boire plutôt du lait conventionnel que du lait bio? C'est la quadrature du cercle.
C'est effectivement la quadrature. Vous me posez une question qui est assez difficile parce que, évidemment, en termes de bien-être animal et en termes d'idéologie, évidemment, mieux vaut consommer bio.
Et d'utilisation des pesticides. Et
encore une fois, on est dans des résidus. On est dans des résidus de PCB et de dioxine. Donc, c'est pas des choses qui sont néfastes ou, enfin, toxiques pour l'organisme. Sauf que c'est dommage de se dire que ces résidus sont plus nombreux dans les laits et dans les œufs bio.
Ça pose la question plus généralement de la démarche de ce hors-série, Christelle Pancrazy. Est-ce que le risque, c'est pas de jeter l'opprobre sur toute la filière bio?
Alors, c'est absolument pas ce qu'on a voulu montrer. Et nous, on s'est contenté de commenter les résultats des études scientifiques que nous avons menées. En fait, on continue à dire de manière très claire, le bio est le meilleur système qui existe, à l'exception de tous les autres, qui est la phrase de Churchill.
Sur la démocratie.
Donc c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Mmh. Seulement, nous disons aujourd'hui, attention, il y a des failles. Je pense que, contrairement à vous, Monsieur Gull, je pense que le consommateur, quand il est devant un rayon bio, il a envie d'un produit qui soit bon pour sa santé, totalement vertueux, vertueux pour l'environnement, vertueux d'un point de vue éthique. On s'est quand même aperçu que ce n'était pas le cas, notamment en Espagne et Almeria. Et vertueux d'un point de vue...
Dans le sud de l'Espagne, où sont cultivés beaucoup de fruits et légumes exportés en Europe.
On fait venir des travailleurs qui viennent, par exemple, de pays étrangers. C'est des gens qui vivent dans des bidonvilles, dans des conditions sanitaires sur lesquelles Médecins du Monde alerte régulièrement. Et c'est des productions bio. Donc,
Alors, je donne la parole au directeur de l'agence bio, Florent Gull. Ça pose la question, en tout cas, le lait pose la question de la contamination des sols, qui n'est pas prise en compte dans l'obtention du label bio. Est-ce que vous pensez que ça devrait changer?
Alors là aussi, je vais corriger un certain nombre de choses. Bon, d'abord, effectivement, on ne peut pas conclure de ça, encore une fois, de cette mesure sur quelques produits. Cette conclusion qui serait de dire que les laits bio sont plus contaminés que les laits conventionnels, ce n'est pas vrai. Les études scientifiques, notamment celle que je citais de l'EFSA, qui est l'étude de référence, l'étude annuelle sur les produits.
Les produits qui a testé 60 millions,
voilà. Encore une fois, quand on mesure 130 produits ou 6 000, je pense qu'il faut dire les choses proprement. Ce n'est pas ça le résultat réel aujourd'hui scientifiquement. Pour revenir à ce qui serait des failles, les deux sont en partie fausses. D'abord, la question des distances, si, elle est effectivement explicitement dans la réglementation bio. On s'assure d'une distance par rapport à des risques de pollution voisines, évidemment. Ça fait partie de la démarche de contrôle des organismes de contrôle qui vérifient les agriculteurs qui sont en agriculture biologique. Ça inclut des questions de distance et puis surtout des méthodes pour diminuer ces risques, parce qu'on peut très bien être dans des distances proches, parce qu'on n'a pas toujours le choix évidemment d'où on s'installe. Et à ce moment-là, on va mettre en place des systèmes qui vont permettre de jouer en partie, parce qu'on ne fait pas des miracles non plus, un peu un rôle de filtre finalement. Sur la question de la mesure des sols, c'est vrai que c'est la qualité des sols, est-ce qu'on peut faire du bio dans une terre qui aurait des résidus de pollution, etc. Alors c'est un problème compliqué, c'est un problème important, par exemple, nos amis qui sont outre-mer, je pense notamment aux Antilles françaises, le connaissent bien, avec la question de la présence persistante de la chlordécone dans les sols. Les tests sont faits et la question qui est traduite derrière, c'est que si vous avez un sol qui est effectivement pollué, vous ne pouvez pas faire d'agriculture du tout, qu'elle soit bio ou pas bio. En fait, l'important, c'est ça, c'est de se dire qu'à un moment donné, on a une protection des consommateurs qui relève d'une réglementation générale et que sur un certain nombre de sujets, il n'y a pas de raison finalement de faire un distinguo, puisque l'important, c'est que l'ensemble de l'alimentaire de nos concitoyens soit de qualité. Donc s'il y a un risque effectivement de pollution, bah, le produit il ne peut pas être cultivé sur cette terre-là et c'est plus une question de savoir si on est en bio ou pas en bio.
Alors beaucoup de réactions d'auditeurs sur la question des serre chauffée. Je les relève un message aux allures de sophisme que nous écrit Théo. L'agriculture biologique est une démarche écologique. Chauffer une serre n'est pas écologique. Manger ce qui pousse naturellement près de chez soi l'est. Voilà. Un autre auditeur, le bio n'est pas seulement une étiquette ou un argument au marketing, c'est une logique. Un rapport à la nature qui repose entre autres sur la consommation de produits de saison, de circuits courts et locaux. Des serres chauffées, dit-il, c'est un non-sens de ce point de vue. Voilà. Tous les auditeurs vont dans le même sens sur les serres chauffées. Comment se fait-il, comment se fait-il que le bilan carbone de chaque produit de consommation n'apparaisse pas sur l'étiquette? Alors là, je pose la question à Benoît Souris de Carrefour. Le bilan carbone sur les produits Carrefour?
Non, en l'occurrence, la problématique pour les consommateurs, en tout cas sur le bio, c'est déjà d'avoir une lecture assez simple de ce qui se passe sur l'étiquette.
C'est donc, pas évident.
C'est pas une évidence d'avoir effectivement cette écriture. Je pense qu'il y aura des très fortes avancées avec le Nutri-Score qui va au moins donner des informations. Mmh. Elle ne répondra pas totalement à cette question sur le bilan carbone. Et je crois surtout que par rapport au débat qu'on vient d'avoir, bien sûr, on peut pas imaginer l'agriculture biologique qui soit sous cloche. On doit effectivement tenir compte de l'environnement et une partie du cahier des charges en tient bien sûr largement compte. Ce qu'il faut surtout regarder, c'est l'évolution des terres. C'est-à-dire qu'on avait hier 1 million d'hectares en bio, on en a aujourd'hui 1,5 million. Il y a encore 500 000 hectares qui sont en conversion. Ça veut dire que on va dépasser les 2 millions d'hectares en France.
C'est vraiment spectaculaire.
Ça veut dire qu'il y a plus de presque 10% du monde agricole qui est aujourd'hui en bio ou en conversion bio. Ça veut dire que évidemment, tous ces problèmes de pollution environnementale qui posent bien sûr soucis et sur lesquels c'est tout à fait normal que nos consommateurs et auditeurs s'interrogent, la meilleure réponse c'est la conversion de plus en plus importante, et pas simplement par des énormes fermes, mais aussi par des plus petits. C'est aujourd'hui, chaque jour, plus de 20 agriculteurs qui se convertissent en bio ou éleveurs. Ça veut dire qu'on est en capacité demain, par rapport à notre volonté de ne pas uniquement importer, on est en capacité demain d'avoir de plus en plus de production. Par exemple, chez Carrefour, on a pris des engagements très clairs. On sera dans l'année 2019, dans l'année 2020, en capacité d'avoir 100% de nos produits à marque Carrefour Bio sur un certain nombre de produits, le melon, les tomates, les fraises, les cerises, qui seront 100% d'origine France. Autrement dit, oui, il faut faire évoluer le cahier des charges pour les autres pays autour de nous, pour au moins rétablir une forme d'équité. Mais il faut aussi commencer par organiser son propre marché, son propre sourcing. Et ça, c'est absolument indispensable que l'on aille, nous, de plus en plus en lien direct avec le sol et la ferme.
Un indice de l'ampleur de ce marché, le bio chez Carrefour représente 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et votre ambition, je crois, c'est d'atteindre les 5 milliards d'ici 2022.
Absolument, c'est une ambition qui a été, chez nous, on appelle ça la transition alimentaire pour tous. C'est une notion d'accessibilité qui est absolument essentielle.
Frédéric Danhaye, vous voyez hausser le sourcil quand Benoît Souris parlait de plus en plus d'exploitation bio. Ce serait la solution idéale.
Non, mais c'est général. Le bilan carbone, c'est une quête sans fin. Moi, je veux dire, il faut l'oublier. Parce que si vous appliquez un bilan carbone à tous les produits, vous condamnez les circuits courts. Pourquoi ? Parce que la camionnette du producteur qui va directement au marché est bien moins efficace au kilomètre parcouru et au kilo transporté que le semi-remorque qui remonte ou que le porte-container qui vous amène des fruits et légumes.
Donc on renonce au bilan carbone,
pour
Frédéric
Danhaye ? C'est le pire des indicateurs. La valeur sociale du carbone n'est pas la même. La valeur sociale du carbone émis par le petit producteur est bien supérieure à la valeur sociale du carbone du producteur, même bio en Espagne. Donc pour moi, le bilan carbone, on devrait même plus en parler. Après, la question des sols, de toute façon, on vit dans un chimique. Donc, si on cherche des traces de plutonium, on en retrouvera parce qu'on a les moyens de le faire dans n'importe quel sol. Et alors, effectivement, quand on convertit un sol, de toute façon...
Donc, convertir, c'est-à-dire passer au bio.
Pardon, hein. Oui, non, on laisse reposer. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la conservation des sols, il y a aussi l'agroforesterie, les pratiques dites agroécologiques. On sait aussi que sur les questions de distance, que si l'on met des haies, que si l'on met des arbres, que si l'on met des bandes enherbées, que si l'on laisse des chemins creux, ça va servir de filtre. Mais rien n'oblige les agriculteurs en bio à le faire, comme rien rien n'oblige les agriculteurs tout court en le faire. Donc attention, et puis contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi je n'attaque pas le bio, j'attaque, je mets le doigt sur des éléments qui demain pourraient faire croire, qui demain pourraient permettre au bio de devenir, à force de se banaliser, de créer de la défiance chez le consommateur. Dès lors que...
Vous dénoncez dans votre livre, Frédéric Danhay, je vous cite, hein, la malbouffe version verte, rendue raisonnable à coup d'estampille. On sait qu'on va mal manger, mais l'étiquette AB aide à se rassurer. Quel produit, pour vous, incarne le mieux ce bio malbouffe version verte?
Non, mais du pâte à tartiner bio, reste une pâte à tartiner, une chip, ça reste une chip, c'est un produit ultra transformé, même s'il y a moins d'additifs, même si les recettes sont moins longues, ça reste des produits trop gras, trop sucrés, trop salés. Le bio, si vous voulez, si ça se résume à acheter des produits bio parce qu'ils sont bio et que derrière, il n'y a pas une réflexion biologique sur le mode de vie, le régime alimentaire, ce bio-là ne sert pas à grand-chose. De la même façon que du bio pour faire du bio sans réflexion agronomique, sans réflexion sur la biodiversité, sans réflexion sociale sur le prix à payer aux agriculteurs, pour moi, ça n'est pas du bio. En France, globalement, le bio, il n'y a pas de souci, mais le bio à l'étranger et le bio qui va arriver en France avec des agriculteurs qui, par opportunisme, vont par exemple sur le lait parce que Lactalis achète le prix du lait au-dessus du prix moyen du lait bio, avec des vaches qui sont nourries avec des tourteaux de soja importés, certes bio, mais quand même des tourteaux de soja qui font pisser du lait, je suis désolé, c'est pas, on n'entretient pas des paysages, on n'entretient pas des prairies.
Mais Christelle Frangrazi, trépine, je lui donne la parole.
Non, on parlait du bilan carbone, mais enfin, je pensais juste à, par exemple, le bio continue à autoriser l'huile de palme. Hein. On parlait des pâtes à tartiner, mais là encore,
c'est catastrophique pour la déforestation.
On sait que c'est catastrophique pour la déforestation. Donc toutes ces cultures où on sait que c'est des cultures qui déforestent, qui sont vraiment nocives pour notre environnement. Pourquoi est-ce que dans la réglementation bio, on se dit, maintenant ça suffit. Comme pour les tomates, on dit,
Benoît
ça, on en veut
vous
plus.
Vendez de la pâte à tartiner bio avec de l'huile de palme.
Et à partir du mois d'octobre, il n'y aura plus du tout d'huile de palme dans la pâte à tartiner Carrefour Bio.
Florent, félicitations.
On va prendre d'autres ingrédients qui, eux, seront 100% respectueux.
Pas d'huile de coco.
Florent Gull de l'Agence Bio.
Oui, je crois que effectivement, ça montre aussi, comme je le disais au début, qu'il y a encore beaucoup de travail pédagogique à faire, y compris auprès de gens très informés comme M. Danhay. Il y a une obligation de contrôle de cette question de distance entre et de filtre et d'installation d'agroforesterie, de haies, etc. pour protéger effectivement des voisins.
Ça, c'est une obligation de résultat.
Si, c'est une obligation de résultat. Si, bien sûr, allez voir des contrôles sur place. Vous verrez comment ça se passe. Le contrôle leur bio demande ça à l'agriculteur.
Il n'y a pas une haie entre un champ, forcément, entre un champ bio et un champ.
Il y a une méthode qui doit être mise en avant par l'agriculteur. Il a le choix, mais il doit en faire une, de toute façon. Oui, donc ça, c'est obligatoire.
Qu'elle pousse, il lui faut 10 ans et le délai de conversion est 3 ans.
Ça, c'est autre chose. On revient à l'environnement. Mais en tout cas, dans le cahier des charges et dans l'obligation réglementaire, c'est pour ça que je voulais le corriger, c'est obligatoire. Donc je pense qu'il faut se rendre compte de ce qu'on demande aux agriculteurs pour passer en bio. C'est effectivement, y compris ces règles-là, elles sont primordiales et elles sont obligatoires.
Tenez, voilà un produit dont le bilan carbone est toujours un peu lourd, même si les bio, c'est la banane.
Non, je ne veux plus jamais travailler, plutôt crever. Non, je n'irai plus jamais au supermarché, plutôt crever. Non, mais laissez-moi, non, mais laissez-moi. Sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller, plutôt crever que de me lever parce que vous me le demandez, plutôt crever. Non, mais laissez-moi, non, mais laissez-moi. Sur la plage, oui monsieur, je sais que ce sont vos enfants, mais quand ils me voient, ils rigolent tout le temps. Alors, laissez-moi, 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 laissez-moi. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Manger ma banane. Non mais laissez-moi. fait que de pas finir ma banane.
C'était Philippe Catherine sur France Inter. Deuxième fruit le plus consommé en France après la pomme. Les bananes bio représentent 12% du marché français, ai-je appris dans le hors-série de 60 millions de consommateurs. Inutile en revanche de chercher à consommer local en la matière. Les bananes bio consommées dans l'Hexagone viennent d'Équateur, de Colombie ou du Costa Rica.
Le débat du midi. Dorothée Barba sur France Inter.
Et Benoît Souris, le patron bio de Carrefour, lève l'index.
Oui, je lève l'index parce que chez nous, on est très fiers. On a mis en place une filière il y a déjà plusieurs années, en l'occurrence au Ghana, où on est capable d'avoir de la banane bio équitable, bilan carbone ou pas bilan carbone, mais en tout cas, on est beaucoup plus proche que les terres lointaines qu'on vient d'évoquer d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. Et c'est une filière qui est absolument importante. On a même supprimé, aujourd'hui dans 95% de nos points de vente, on a supprimé le sac plastique puisqu'on vend des mains de bananes. On a supprimé le sac plastique pour mettre un simple fardelage qui permet d'identifier le produit en caisse quand il est en bio. Et donc c'est à la fois bio, c'est équitable, c'est beaucoup plus proche en termes de carbone, et ensuite on a supprimé X dizaines de tonnes de plastique.
Alors on entend bien la fierté des magasins Carrefour quand ils vont plus loin que le label bio. Frédéric Dan, il y a un risque quand même de greenwashing derrière ces questions de marketing écolo. On peint en vert les produits bio?
Non, mais le greenwashing, même quand c'est du greenwashing, c'est une espèce de perturbateur endocrinien de l'entreprise, parce qu'à un moment ou un autre, ça diffuse pendant des années dans les personnels et chez les collaborateurs, et ils finissent par effectivement, par s'y fier, par s'y tenir.
Ah, donc vous chantez les louanges du greenwashing?
Non, mais en fait, c'est un piège pour les marketeurs qui considèrent que l'écologie n'est qu'une peinture de surface. En fait, finalement, moi, c'est ce que je vois, partout où je vais. Au bout de quelques années, on y est. En l'occurrence, Carrefour...
Vous dites, en fait, c'est que faire quelque chose de bien pour une mauvaise raison, c'est quand même faire quelque chose de bien.
Exactement. Et puis la grande distribution, dans le bouquin, comme vous l'avez vu, j'en pense pas grand-chose de bien. Enfin, surtout une enseigne que je ne citerai pas ici. Leclerc, voilà. Mais il n'en reste pas moins que, sans la grande distribution, il n'y aurait jamais eu cette explosion du marché du bio, parce que la grande distribution a rendu les produits disponibles pour tout le monde et non pas pour une clientèle de CSP+. C'est grâce à la grande distribution que les jeunes parents typiquement se sont mis à acheter du bio. Donc tant mieux pour Carrefour. Le risque, pardon, très vite, c'est que c'est la force des quatre centrales d'achat françaises qui ferait que aujourd'hui les agriculteurs bio, les transformateurs bio, les petits fixent leur prix parce qu'on a besoin de demain face à l'augmentation de la demande et à la faiblesse de la production en France. La grande distribution va faire ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire renégocier les prix, et on risque d'avoir des agriculteurs et des transformateurs qui se retrouvent pieds et poings liés, comme les conventionnels d'aujourd'hui.
Alors justement, parce qu'on dit beaucoup depuis le début de cette émission que l'enjeu, c'est d'alourdir le cahier des charges, de rendre plus exigeants les critères pour l'obtention de ce fameux label bio. Florent Gull, directeur de l'agence bio, est-ce que le risque de cette démarche, ce serait d'avoir des prix plus hauts et des conditions plus difficiles pour les agriculteurs biologiques?
C'est bien ça le débat, c'est de trouver cet équilibre qui n'est pas facile, on est tous d'accord. Ça fait, comme je disais tout à l'heure, pas loin de 100 ans que les choses ont commencé. Mmh. En tout cas, de presque 20 ans maintenant qu'on est sur un cahier des charges européen, 1992 la première version, le début du travail de mise en commun. Et je pense que l'objectif, c'est bien celui-là, de rendre à la fois des produits suffisamment accessibles, même si un produit bio reste toujours plus cher, on le sait, c'est plus cher à produire, les rendements sont moins forts.
Voilà. C'est toujours plus cher.
C'est toujours plus cher. Mais pour autant, il y a aussi vocation, évidemment, à ce que ça bénéficie à un maximum de consommateurs. Donc après, il y a des solutions qui sont trouvées. Dans le dossier de 60 millions de consommateurs, il y a des expériences très intéressantes qui sont mises en avant pour justement rendre les produits bio accessibles à des populations qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et je crois qu'il faut vraiment maintenant travailler beaucoup plus sur cette question fondamentale, de dire comment, notamment, on raccourcit les circuits, cette fois-ci pas en termes de kilomètres, aussi en termes de kilomètres, mais en termes d'intermédiaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le lien plus ou moins direct entre un producteur et un consommateur, c'est la bonne solution, et fleurit aujourd'hui beaucoup de choses, notamment via Internet, beaucoup d'associations, d'AMAP, etc., qui proposent ces solutions-là. Il faut que chacun se renseigne autour de chez soi. On a vraiment une vraie réponse à cette question, sur des produits bio et non bio d'ailleurs, mais des produits de proximité sur lesquels on va pouvoir consommer des produits de qualité à des prix très raisonnables.
Frédéric Danhay parlait à l'instant d'agriculteurs qui seraient pieds et poings liés. Benoît Souris, chez Carrefour, vous travaillez, je crois, avec des agriculteurs pour les aider à se convertir à l'agriculture biologique. Oui, est-ce que le risque, c'est pas qu'ils aient que vous, que Carrefour, comme interlocuteur, et soient ensuite coincés?
Alors, nous, on a là-dessus des engagements très très clairs et très très simples. On dit, on est capable d'accompagner les agriculteurs. On voulait en accompagner 500 nouveaux convertis en bio d'ici 2022. On est parti en 2018. En fait, en tout début d'année 2020, on aura converti 500 agriculteurs ou éleveurs nouveaux pour être en bio. Donc ça, c'est une première fierté. La deuxième, problème, c'est que bien naturellement, on n'enferme pas. On s'engage par écrit à ne pas acheter plus de 40% du volume produit par un éleveur ou un agriculteur lorsqu'il est en bio. Ça veut dire qu'il a 60% de sa récolte ou de sa marchandise qu'il doit vendre à l'extérieur de Carrefour. Et enfin, on lui dit, pendant la période durant laquelle tu vas être en conversion, c'est-à-dire 2-3 années en fonction des produits. Là, effectivement, on est à ton écoute et on est capable de t'acheter ta marchandise. Cette fois-ci, peut-être d'une façon plus importante en termes de pourcentage, parce que c'est le moment le plus dur. Et on va même jusqu'à proposer au monde agricole de préfinancer des aides à la conversion qui sont attendues de la part en particulier de l'État, qui, pour des raisons diverses, a été un peu défaillant en termes de délai. Et on dit, nous, on est capable à un moment de vous avancer cette trésorerie-là pour faciliter ce passage. Donc, garantie sur la durée, garantie sur la non-exclusivité et stabilité financière.
Christelle Pangrassi de 60 millions de consommateurs, vous voyez-vous des défaillances dans les relations entre la grande distribution et les agriculteurs en biologique ?
Alors là, l'exemple de Carrefour est particulièrement vertueux. J'allais dire frôle la perfection. Enfin, en tout cas, dit comme
c'est
ça.
C'est 60 voilà. millions qu'il dit.
Mais c'est vrai que ce que vous disiez tout à l'heure, le fait de se convertir et d'avoir un interlocuteur unique peut faire qu'il y ait effectivement une pression des prix et qu'on se retrouve finalement avec une pression des prix qui soit la même que celle qu'un producteur peut avoir dans le conventionnel. Donc il faut rester vigilant.
Attention
à ça, en fait.
Les montagnes d'Auvergne seraient-elles plus bio que les autres ? La question est posée dans 60 millions de consommateurs dans ce hors-série. Le meilleur du bio, Volvic a lancé récemment une nouvelle eau parfumée bio. C'est formidable, Christelle Pangrassi.
C'est génial.
Non, alors pourquoi c'est pas génial en réalité ? Parce que ce n'est pas l'eau qui est bio, mais c'est le jus de citron qui est ajouté.
J'ai vu ça chez une collègue qui buvait ça, en fait, qui était à côté de mon bureau, et puis elle avait sa Volvic, et je lui dis, mais c'est une Volvic bio, donc je me dis, tiens, de l'eau peut être bio. Et en fait, non.
Dernière nouvelle.
Voilà. Non, l'eau n'est pas bio. En fait, il s'agit de l'extrait de citron à moins de 1% d'extrait de citron bio.
Donc, un zeste d'amertume dans un océan de rentabilité, écrivez-vous. Et la bouteille avec le précieux label AB coûte 2 fois plus cher que son homologue qui n'est pas bio.
Exactement. Donc effectivement, il y a quand même une dimension très marketing au bio. Et quand on impose ça effectivement sur un produit, on peut vendre le produit beaucoup plus cher. Et le consommateur peut s'y laisser piéger.
Voilà, la différence de prix, Florent Gull, directeur de l'agence bio, la différence de prix entre le bio et le non-bio est-elle aussi fondée sur du marketing, de la communication ?
Je crois qu'il faut surtout redire pourquoi un produit bio est plus cher, parce que c'est finalement à toutes les étapes de sa production et de sa transformation qu'on a des coûts supplémentaires.
Sur cet exemple d'eau bio avec 0,5% de jus de citron bio,
oui, alors c'est
bio,
très particulier parce que l'eau n'est pas un produit alimentaire, donc il ne peut effectivement pas être bio. Donc là, on est sur c'est compliqué.
Vous le reconnaissez.
En tout cas, ça n'a rien à voir avec la réglementation dont on parlait là, puisqu'on n'est pas sur un produit alimentaire. Donc l'eau n'est pas bio.
Il y a le label.
Il y a le label AB sur la partie additif, en l'occurrence.
Il y a le label AB sur la bouteille Volvic.
Parce que l'eau n'est pas un produit alimentaire.
Il y a le label AB sur la bouteille Volvic.
On peut discuter pendant des heures sur un exemple qui n'en est pas un.
Le logo fait figure de Graal. Vous en avez conscience de ça ?
Non, je crois pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Encore une fois, il faut s'enlever ça de l'esprit. On est sur des choses très concrètes. Là, on dit quels sont finalement les engagements, les promesses qui sont sur ce là-dessus. On parlait du prix. Oui, on a un produit qui est plus cher à produire et à fabriquer et à transformer. Pourquoi ? Parce que d'abord, on a beaucoup plus de main-d'œuvre, ce qui en soi est aussi une bonne nouvelle et avant tout peut-être une bonne nouvelle. On a un développement de l'emploi. On l'a montré depuis 6 ans, on a une augmentation, on a pratiquement 2 fois plus de salariés aujourd'hui en France qui travaillent dans le bio, dans les fermes, dans la transformation, etc. Donc dans les territoires aujourd'hui en France, l'agriculture biologique est souvent l'endroit où se développe une activité, effectivement, dans des zones qui souvent ont des problèmes de chômage importants. Donc ça, il faut le relever aussi. Et puis deuxième élément, c'est qu'on est sur des rendements beaucoup plus faibles, en transformation aussi. Par exemple, stocker des céréales en bio aujourd'hui dans un silo de stockage, c'est une opération qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus coûteuse. Donc on a surcoût. Je dis ça parce que souvent on est interrogé sur le fait de dire quand est-ce que les produits bio pourraient être à des prix beaucoup plus bas, voire équivalents à un prix conventionnel. Je crois qu'il faut être très clair sur le fait que ça va être difficile et qu'à un moment donné on arrive à une limite qui est que effectivement c'est plus cher à produire. Ça veut dire aussi retravailler avec les consommateurs sur le fait de dire une alimentation de qualité, ça a un prix et quand on veut protéger l'environnement, la santé et avoir un produit de qualité, bah, ça coûte un peu plus cher. Il va falloir accompagner aussi ce changement-là.
Christelle Pangrassi parlait tout à l'heure des immenses serres à Almeria en Espagne qui exporte massivement dans toute l'Europe. Est-ce que les très grandes parcelles bio vous dérangent, vous, Florent Gull ?
Alors c'est compliqué la question de la taille des parcelles parce que ça dépend vraiment de ce qu'on cultive. Évidemment, on a des choses qui aujourd'hui permettent de faire des productions importantes et dans des conditions de travail qui sont très intéressantes. Moi, je pense par exemple à des gens qui font un travail formidable sur le terrain aujourd'hui en France qui s'appellent les jardins de Cocagne. Mais historiquement, jusqu'à encore 5 ans, on avait des jardins qui souvent, alors ils sont quasiment tout le temps en bio, souvent étaient plutôt autour d'un hectare, un demi-hectare. Aujourd'hui, on en a plusieurs qui ont passé le cap des 30, 40 hectares en légumes de plein champ. Donc ça peut paraître important. La question, elle est complètement liée à comment on travaille effectivement en agroécologie, comment on fait en sorte que ces surfaces importantes puissent être menées avec des contraintes qui sont présentes dans le cahier des charges. Encore une fois, vous avez systématiquement des liens qui vont vous dire, bah, si par exemple vous êtes sur un question d'élevage d'animaux, bah vous devez pouvoir produire, comme on le disait tout à l'heure, la nourriture sur place. Vous devez pouvoir épandre les déjections des animaux sur place également pour en partie. Et donc, si vous avez des surfaces importantes, bah vous pouvez produire plus, mais beaucoup moins que si vous n'étiez pas en agriculture biologique. Donc c'est plutôt par cette obligation-là de moyens qu'on arrive à réguler les choses. Mais c'est vrai que, par exemple, on prend l'exemple du riz de Camargue. Aujourd'hui, on a des rizières qui passent en bio, bah, qui font plusieurs centaines d'hectares parce que c'est la culture du riz est comme ça et que c'est une bonne nouvelle parce qu'on se retrouve aujourd'hui.
On désigne rarement le riz de Camargue quand on parle d'agriculture intensive.
Sachez que bah, il y a peu de temps, on était que sur du
financier. Voilà. On plus vraiment
et aujourd'hui, on a 20% des surfaces de culture de l'IGP riz de Camargue qui sont en bio et c'est une progression toute récente qui est très intéressante à noter.
Frédéric Danlé.
Mais en fait, là, c'est là où le bio trouve ses limites telles qu'il est aujourd'hui, les limites que lui désignent les agronomes, c'est-à-dire que c'est le problème des sols. L'agriculture, ça reste des sols, et les sols de qualité, les sols fertiles, c'est des sols vivants, c'est des sols structurés, et dès lors qu'il y a trop de labour, beaucoup trop fréquent, dès lors qu'on a des sols dont l'assolement, c'est-à-dire la couverture sur l'année, n'est pas suffisante, on a des sols qui s'abîment, on a des sols qui perdent leur fertilité. Et il n'y a pas d'obligation de résultat dans le cahier des charges du bio là-dessus. Et là-dessus, pour combler ce vide, si j'ose dire, les agriculteurs qui se disent en conservation des sols ont inventé des techniques, ou en tout cas promeuvent des techniques. Mais ce qui est intéressant, c'est que à l'avenir, le bio devrait essayer de se rapprocher de la conservation des sols, c'est-à-dire avoir en tête d'abord l'agronomie, ensuite le social, et puis avoir une vision écologique globale. Je vous donne juste un exemple très court. J'étais il y a 3 jours à une coopérative bio qui fait un fromage qui est l'ancêtre du Port Salut. C'est la coopérative d'Entrame.
C'est marqué dessus.
Voilà, c'est marqué dessus. À côté de Laval, et eux se sont sentis obligés d'accoler au label AB, le label, je crois que c'est un label aujourd'hui, lait de foin. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient des collègues qui, eux, dont les vaches, certes, étaient en prairie, mais étaient aussi à l'ensilage, alimentés par des tourteaux de soja, par des tourteaux de maïs. Et pour eux, effectivement, selon le label AB, c'est la même chose, sauf que eux vont beaucoup plus loin et ne font que du foin, que de la prairie. D'ailleurs, ils ont beaucoup de problèmes avec les canicules cet été.
Si le bio est une religion, voici une auditrice qui a perdu la foi récemment. Virginie, auditrice de Rennes, nous écrit qu'elle est exaspérée par les gens sur Instagram qui montrent leur panier bio avec des bananes, des avocats et des mangues. Moi, j'ai changé d'avis sur le bio, dit-elle. Désormais, je préfère largement manger local, bio ou pas bio. Je pense qu'il serait bon d'arrêter d'opposer frontalement les différents modèles d'agriculture, nous écrit Richard, et de faire croire que le bio serait parfait, tandis que l'agriculture conventionnelle serait le mal incarné. Question autour du poisson, Christelle Pangrazi. Manger bio du poisson, est-ce que ça a du sens ?
Alors, du poisson bio, c'est compliqué. En
voilà.
Fait,
c'est ça. Vous en parlez dans le hors-série.
Oui, on en parle, c'est assez compliqué. Après, il y a différents labels qui viennent se greffer de pêche durable.
Voilà, il vaut mieux, dites-vous, manger MSC, donc le label qui certifie que la ressource est respectée, plutôt que
des
bio. Ça existe, hein, le poisson bio.
Mais ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens.
Florent Gull de l'agence bio, ça a du sens, le poisson bio ?
Ah ben, il y a des règles là, par contre, oui, c'est bien, le poisson bio existe, alors pas beaucoup, évidemment, parce que c'est du poisson qui est du poisson d'élevage, mais qui a des règles différentes du poisson d'élevage conventionnel, c'est-à-dire qu'en particulier, la nourriture, si on prend l'exemple du saumon, qu'on connaît sur nos rayons venant de différents pays, soit l'Union Européenne, soit hors Union comme la Norvège.
Premier poisson consommé en France,
voilà,
le
tout
saumon.
À fait, et c'est vrai que le saumon bio, ben, par exemple, ça veut dire qu'il est nourri de façon très majoritaire par des poissons, ce qui n'est pas le cas, malheureusement, des saumons qui ne sont pas bio. Vous voyez, c'est illustre une nouvelle fois qu'on a systématiquement des règles qui sont spécifiques quand c'est un produit qui est cadré.
En fonction du produit concerné.
En fonction du produit concerné.
Un auditeur nous écrit ceci, c'est quand même fort d'entendre Carrefour faire des leçons sur le bio. Où était-il il y a 30 ans et ce n'est pas eux qui cherchent à alléger le cahier des charges pour faire baisser les prix, demande-t-il. Bon,
On est habitué à ce type d'interpellation. Oui. Hein, très honnêtement, d'abord Carrefour ne découvre pas le bio depuis cette année. On est assez fier de dire qu'en 1992, le seul distributeur qui a effectivement eu le courage de fabriquer de la boule de pain bio dans ses hypermarchés, c'est Carrefour. Elle est aujourd'hui faite à 100% avec de la farine française depuis le début de l'année dernière. Donc on a plutôt une vraie fierté. Après, il y a bien naturellement des acteurs historiques qui ont créé le marché, des magasins spécialisés.
Et qui vous reprochent aujourd'hui d'en accaparer la moitié, oui, puisque la moitié des produits bio vendus en France le sont en grande distribution.
Vous savez, on n'est pas propriétaire de ses consommateurs, on n'est pas propriétaire de ses clients, c'est le consommateur qui choisit de faire ses courses chez Carrefour ou ailleurs, et bien naturellement, certains découvrent la bio dans des magasins spécialisés ou sur les marchés ou dans les ventes directes à la ferme. Après, il se trouve que nous, notre démarche est travailler sur l'accessibilité, donc effectivement être capable de donner de la marchandise, de l'offrir aux consommateurs dans des conditions de prix qui soient acceptables tout en ne cherchant jamais à dévoyer un cahier des charges. Là, c'est vraiment, on en a toutes les preuves. Je suis vraiment à disposition de cet auditeur quand il veut, pour être capable d'échanger sur le sujet. Et la deuxième chose, c'est que nous croyons beaucoup aussi à la proximité, à des circuits courts, parce que on a la chance dans ce groupe d'avoir 22 bases qui achètent des produits frais et des fruits et légumes tous les jours en région. Bien naturellement, quand il s'agit de faire de la banane, ça vient de partout, mais quand on peut avoir des salades cueillies il y a moins de 24 heures à côté de chez soi, c'est quand même bien mieux.
Alors, le sujet mérite évidemment des heures de débat, et à n'en pas douter, la nouvelle émission de Mathieu Vidard à la rentrée sur France Inter se penchera en détail sur le bio. Nouvelle émission baptisée La Tête au Carré. La Terre. C'est 10 ans d'habitude, hein. La Terre au Carré. L'émission touche à sa fin, j'ai une dernière question à poser à mes invités.
Le débat de midi sur France Inter.
Question rituelle. Sur quel sujet avez-vous changé d'avis? On a le droit, et c'est même recommandé, de parler d'autre chose que notre sujet du jour. Christelle Pangrazi, 60 millions de consommateurs.
Ah, je commence.
Oui, allez-y.
Il y en a énormément sur lesquels j'ai changé d'avis. Je vais pas parler politique, mais je pensais, en fait, alors j'en parle parce qu'on a fait, c'était notre dernière étude, c'était sur les produits ménagers. En fait, j'ai longtemps pensé naïvement que nettoyer sa maison avec ce qu'on vendait dans le commerce, c'était plutôt pas mal. Mmh. Et en fait, j'ai découvert, grâce à nos études,
le vinaigre.
J'ai découvert le vinaigre, ses bienfaits, puis j'ai surtout découvert que, en fait, les produits qu'on utilisait au quotidien polluaient de manière assez forte nos maisons.
Même question. Pardon, allez-y. Donc vous avez tout changé.
J'ai tout changé.
Même question pour Monsieur Carrefour, Benoît Souris.
Mon effarement, mon étonnement, ma joie, c'est de voir finalement cette jeunesse en France, en tout cas dans nos entreprises, et leur engagement. Là où on pouvait une fois de temps en temps un peu avoir le sentiment qu'il fallait désespérer, ben moi je suis effaré de la jeunesse et de la capacité, alors en particulier en entreprise, mais pas que, d'avoir encore envie de changer le monde.
Donc la jeunesse vous a rendu optimiste?
Absolument.
Florent Gull, même question. Vous avez changé d'avis?
Ah oui, tout récemment, mais je prends un gros risque parce que je vais faire en même temps un pronostic.
Oula.
Changer d'avis sur la capacité de Julien Alaphilippe d'aller jusqu'au bout de ce Tour de France.
Donc
on verra dès aujourd'hui si je suis.
Vous le mettez en jaune à l'arrivée, voilà, sur les champs, évidemment.
Un gilet jaune sur les champs, ça serait carrément.
Pas mal. Frédéric Danhaye, avez-vous changé d'avis? Et sur ici, oui, sur
oui,
quoi?
Il y a 5 ans, j'étais un homme désespéré. Je travaille sur les sols, et il y a 5 ans, tout le monde se foutait des sols. Et là, récemment, j'ai rencontré le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui, lors d'un discours, a dit premièrement, il faut passer de l'aménagement du territoire au ménagement du territoire. Wow. Et deuxièmement, les sols doivent être considérés désormais comme un bien commun de la nation. Quand vous connaissez, avez en tête la notion de bien commun, ce qu'elle implique au niveau juridique, ça change tout. C'est une doctrine qui est en train de changer. D'ailleurs, tout ça, ça veut dire la remise en cause un peu du code civil avec le régime de propriété. Moi, je suis
soulagé.
Soulagé, oui, c'est
acheter
ça.
Acheter bio, à qui faire confiance? Ouvrage signé Frédéric Danhaye, c'est à lire chez Albin Michel. Le hors-série spécial bio de 60 millions de consommateurs est en kiosque. Merci beaucoup à vous quatre. Bonne journée.
Merci à vous.
Le débat de midi revient lundi. On parlera de la petite lucarne. Depuis le temps qu'on l'annonce morte et enterrée, la télé se porte plutôt pas mal. Les chiffres d'audience du Mondial féminin, par hasard, étaient spectaculaires, tout comme le nombre d'abonnés à Netflix et autres plateformes de streaming, d'ailleurs. Alors, penchons-nous sur ce secteur en pleine révolution. Va-t-on zapper la télé et vos réactions sur le site de France Inter?